إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام حديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on continue l'explication du hadith de Jibril dans l'explication de la religion qui est faite par Cheikh Al-Muhsin Al-Abbad hafidahullah ta'ala. Et on avait vu certains points hier, on avait vu certains points concernant ce hadith, concernant le rapporteur de ce hadith, concernant la raison pour laquelle ce hadith il a été rapporté. Et on avait vu une série de bénéfices que Cheikh Al-Muhsin Al-Abbad a extrait de ce hadith. Et on avait parlé de la bid'a, et on avait parlé que l'adoration devait être conforme à la sunna et sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est les deux conditions d'acceptation d'une action par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'elle soit sincère pour Allah azza wa jal, vouée de manière exclusive à Allah azza wa jal, et qu'en plus elle soit conforme à la sunna. Et en ce point-là, on avait rapporté de Cheikh Al-Uthaymeen dans l'explication de 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah, 6 points dans lesquels toute adoration doit être conforme. Qui était quoi? Qui était la cause? Ou quoi d'autre? Le genre, le nombre, la manière, le temps et le lieu. Maintenant, je voulais vous parler un peu de la bid'a avant de rentrer dans le cours directement proprement dit. Et la définition de la bid'a, c'est dans le sens linguistique, le bid'a lughatan, قال الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه حفظه الله تعالى في رسالته القيمة البدعة ضوابطها وأثرها السيء في الأمة. البدعة لغة الاختراع غير على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض سورة الأنعام. La définition de la bid'a, l'innovation religieuse. Vous allez comprendre pourquoi on traduit ça par innovation religieuse. Inch'Allah. Son sens linguistique, bien Cheikh Ali ibn Muhammad ibn Nasr al-Faqihi, parmi les grands savants de la sunna de cette époque, qui fait partie des chouyours qui enseignent à la mosquée du prophète alayhi salam, qui fait partie des chouyours notamment de Cheikh Falah Ismail et d'autres, il dit dans son excellent épître qui a pour titre la bid'a, ses normes et son mauvais effet sur la communauté. Il dit la bid'a dans son sens linguistique, parce que le ulama, quand il donne une définition d'un terme, il donne toujours deux définitions, deux sens. C'est le sens linguistique, c'est-à-dire le sens de ce mot-là dans la langue arabe. Qu'est-ce que ce mot-là, il veut dire dans la langue arabe? Et en plus, il donne le sens religieux. C'est-à-dire le sens dans le jargon des ulama, dans le vocabulaire spécifique aux ulama, le vocabulaire religieux. Un mot, il a donc un sens linguistique, un sens dans la langue arabe, et un sens dans le cadre de la religion. La bid'a, le mot bid'a, il a un sens linguistique. Qu'est-ce que la bid'a dans la langue arabe? D'accord? Et puis, un sens religieux de la bid'a. Le sens linguistique, c'est quoi? Eh bien, il dit... C'est inventer, créer, si vous voulez, quelque chose qui n'a pas d'exemple qui le précède. Dans ce sens, il y a parole d'Allah Azza wa Jalla dont la traduction du sens est Badi' as-samawati wal ard, créateur des cieux et de la terre. Badi'. Surat al-An'am, verset 101. Yuqalu fulan ibtada'a tariqatan lam yasbiqu ilayha sabiq. On dit un tel, il a commencé une voie dans laquelle personne ne l'a précédé. Ça, c'est dans le sens quoi linguistique encore. Vous comprenez déjà qu'est-ce que ça va amener dans le sens religieux du terme. Il est dit, un tel a innové ou commencé, si vous voulez, une voie dans laquelle personne ne l'y a précédé. Il dit maintenant, le bid'a tout fait shara. C'est-à-dire la bid'a dans son sens quoi? Religieux. Dans le sens de la législation islamique, c'est quoi? C'est tariqatun fi d-din. Tariqatun fi d-din, muhtara'a tudahi shara'iyya. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. Cette définition fait partie des meilleures définitions de la bid'a, et c'est la définition donnée par l'imam Shatibi rahimahullah dans son livre l'I'tisam, volume 1, page 51. On traduit ça. Maintenant, la bid'a dans le sens de la législation islamique, ou si vous voulez, dans son sens religieux, après avoir donné son sens linguistique dans la langue arabe. Eh bien, c'est quoi? L'imam Shatibi rahimahullah, parmi les grands savants de la sunna, il dit, parmi les anciens, il dit, une voie, la bid'a, c'est une voie inventée dans la religion. Regardez la précision, inventée dans la religion, qui ressemble à la voie légiférée. Et d'ailleurs, lui-même, Shatibi, dans son livre l'I'tisam, chaque partie de la définition, il explique. Parce que l'ulama, quand il donne une définition, il la donne d'une manière tellement précise que tout ce qui doit rentrer dans la définition rentre dans la définition, et tout ce qui doit en sortir, en sort. C'est pour ça qu'il a dit, une voie inventée et c'est pas tu, dans la religion. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas dans la religion, il sort de cette définition-là. Vous comprenez ça ou pas? Une voie inventée dans la religion qui ressemble à la voie légiférée. Et lui-même, il a expliqué, comme on a dit, il a dit, même si en réalité ce n'est pas le cas et qu'elle oppose cette voie légiférée, et ce de plusieurs manières, mais elle ressemble à la voie légiférée, qui a pour but, en la prenant, cette voie, l'exagération de l'adoration d'Allah. Regardez la précision de la définition. Et c'est la définition donnée, comme on a dit, et expliquée d'ailleurs par l'imam Shatibi dans son excellent livre Al-I'tisam, parmi les livres importants dans la Sunna, volume 1, page 51. Maintenant, Cheikh Ali Nasr al-Faqih, il explique cette parole de l'imam Shatibi dans l'épître qu'on a cité précédemment. C'est un petit épître qui est sur la bid'a, qui est à la base un cours qu'il a donné, qui a été retranscrit. يقول الشيخ علي ناصر الفقيه عن هذا التعريف في المصدر المذكور آنفا وهذا التعريف يشمل كل ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه الشيخ علي ناصر الفقيه دي en commentant cette définition de qui? De l'imam Shatibi, de la bid'a, dans la référence précitée. Et bien c'est quoi? Il dit, cette définition englobe tout ce qui a été innové dans la religion et qui n'a pas de fondement qu'il indique dans la législation islamique. فَأَمَّا مَا لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِبِدْعَةِ شَرْعًا وَإِنْ سُمِيَ بِدْعَةً لُغَةً وَهَذَا مَعْنَى مَا وَرَدَ مِنْ كَلَامِ بَعْدِ السَّلَفِ مِنْ قَوْلِهِمْ فِي بَعْدِ الْبِدْعَ نِعْمَةِ الْبِدْعَةِ مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج وراءهم يصلون كذلك فقال نعمة البدعة وهذه لأن لصلاة التراويح جماعة أصل فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في رمضان ليلتين أو ثلاثة ثم امتنع خشية أن تفرد على الأمة فيعجزون عن القيام بها. Et ça, maintenant, on va apporter un point très très important qui réfute une ambiguïté que beaucoup de gens disent et que vous avez sûrement déjà entendu. Il dit, tandis que ce qui est un fondement dans la religion qu'il indique, alors ce n'est pas une innovation dans le sens religieux du terme. Et même si cela est appelé innovation dans les paroles de certains pieux prédécesseurs. Dans le sens linguistique du terme, pardon. Et c'est cela le sens de ce qui a été rapporté de certains pieux prédécesseurs comme parole au sujet de certaines innovations. Comme la parole, sûrement vous parlez de quelqu'un de bid'a, il vous dit, Akhi, Amr al-Khattab, quand il a vu Salat Tarouh, il a dit, oh, quelle bonne bid'a. Vous avez déjà sûrement entendu celle-là. Ben maintenant, vous pouvez répondre à cette chouba, à cette ambiguïté-là. Et c'est cela le sens de ce qui a été rapporté de certains pieux prédécesseurs comme parole au sujet de certaines innovations. Quelle bonne bid'a, quelle bonne innovation que celle-ci. Parce que Omar ibn Khattab, il va appeler une innovation religieuse bonne religion. Alors qu'il attendait le prophète, alayhi salatu wassalam, à chaque khutbah al-hajj à dire, فَإِنَّ كُلَّ مُحْتَتَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là, Omar ibn Khattab? On va le prouver dans un instant, qu'est-ce qu'il veut dire, Inch'Allah. Lorsqu'il a regroupé les gens pour la prière nocturne durant le mois de Ramadan, à la mosquée, derrière un seul imam, et il sortit et les vit prier de cette manière, il dit alors, quelle bonne innovation que celle-ci. Alors, ils ont dit, ah, t'as vu, bid'a, c'est une bonne innovation, il y a des bonnes bid'a, il y a des mauvaises bid'a, toutes les bid'a sont mauvaises. Là, toutes les bid'a sont mauvaises. On n'a pas bonnes et mauvaises, ça n'existe pas ça, chez nous. كل البروفيت عليه دي كل توت لي بدع الله القران الذي اليوم اكملت لكم دينكم aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et toi tu veux rajouter Et Cheikh Mohamed Al-Jami, il a bien prouvé. Il a dit, ce qui accepte le rajout, c'est quelque chose qui n'est pas complet. Ce qui accepte le rajout, c'est quelque chose qui n'est pas complet. Donc toi, par dire qu'il y a une bonne bid'a dans la religion, cela implique que tu dises que le dîn n'est pas complet. Attention, c'est dangereux ça. Hein? Ou alors que le dîn est complet, mais que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a trahi le message. Kif? Ou par où tu vas t'en sortir de cette parole maintenant? Fais attention, les frères, ce n'est pas des choses faciles, pas des choses simples. Il dit donc quelle bonne innovation que celle-ci. Et ce, car la prière de Tarawih en congrégation a un fondement. Donc, si quelqu'un là, il vient te dire, c'est déjà Omar Khattab, il l'a dit, je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire le sens linguistique du terme. Parce que le sens religieux, on ne peut pas le comprendre comme ça ici. Pourquoi? Parce que Tarawih, il a un fondement dans la religion. Donc, ce n'est pas une bid'a religieuse. Quelque chose que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait pendant deux ou trois nuits, qu'on va le voir dans un instant, incha'Allah. Est-ce que tu peux l'appeler bid'a ou l'a'adou billah? Et ce, car la prière de Tarawih en congrégation a un fondement dans la religion. Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a guidé les gens dans la prière en congrégation lors du mois de Ramadan. Et ce, deux ou trois nuits. Puis il arrêta cela de peur que cela soit rendu obligatoire à la communauté et que donc il ne soit pas capable de s'en acquitter. Donc maintenant, il y a un fondement dans Tarawih ou pas dans la religion? Oui ou non? C'est qui l'a fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'as un dalil ou pas? Et quand t'as un dalil, c'est une bid'a? Donc qu'est-ce qu'il a voulu dire Omar ibn Khattab ici? Le sens linguistique du terme. C'est clair ça ou pas? Et avec ça, on a fini ce point-là que je voulais vous rapporter sur la bid'a. Donc vous ne faites pas avoir par les choubouhats, des gens des choubouhats. Hein? Les ulama de la sunna, ils disent, il n'y a pas de bonne bid'a. Ils rapportent beaucoup, le titre du shir, il est clair, shir Ali Nassal Faqih. La bid'a, c'est énorme et son mauvais effet sur la communauté. On revient au dars de Cheikh Mohamed Al-Abbad. On est arrivé au point qui concerne les noms attributs d'Allah Azza wa Jal. Qui concerne quoi? Tawhid, l'asma wa sifat. L'unicité des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Et on est arrivé au point où il parle de l'ouïe d'Allah Azza wa Jal. On a dit que Allah Azza wa Jal a donc une ouïe. Mais pas comme les autres ouïes. Et Allah a une vue. Mais pas comme les autres vues. Il est dit de même en ce qui concerne tout ce qui a été affirmé à Allah comme nom et attribut. Le ménage des gens de la sunna, il est clair, il est simple. Hein? Contrairement aux gens de l'innovation comme l'Asha'ira et d'autres groupes égarés dans l'Asma Sifat, le Jahmiya, etc. Tu vas voir la tête qui tourne et Akhifillah. Maintenant, on parle de la croyance du deuxième pilier de la croyance. C'est quoi? Après la croyance en Allah, qui est la base et le fondement, comme on a dit, c'est la croyance en les anges. D'accord? Et il dit الإيمان بالملائكة الإيمان بأنهم خلق من خلق الله خلقوا من نور كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم وهم ذو أجنحة كما في الآية الأولى من سورة فاطر وجبريل له 600 جناح كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم قريبا وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل ويدل لذلك أن البيت المعمور هو في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه رواه البخاري ومسلم فهو حديث متفق عليه وروى مسلم في صحيح عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. La croyance en les anges maintenant, eh bien, c'est de croire qu'ils sont des créatures parmi les créatures d'Allah. Hein? Et ils ont été créés de lumière. Comme cela a été rapporté dans l'authentique de Muslim numéro 2996, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les anges ont été créés à partir de lumière et les djinns ont été créés d'un feu sans fumée. Et Adam a été créé de ce qu'on vous a décrit. Dans une petite faïda en passant, Charles Atim dans le Kitab Tawhid, il dit que le djinn, les lettres djinn et noun en arabe, elles expriment souvent l'invisible. Djinn, jannah. Hein? Et les anges ont des ailes, comme il est dit dans le premier verset de Surat Fatir, qu'on a lu hier. Et Jibril a 600 ailes, comme cela a été rapporté dans le hadith que nous avons vu il y a peu, c'est-à-dire nous l'avons vu hier. Vous savez que le prophète Sassam, il l'a vu de cette manière-là. Hein? Et puis, cher, il dit, les anges sont nombreux. Alors maintenant, est-ce qu'on connaît leur nombre? Il dit, les chers ne connaissent leur nombre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceci est indiqué par le fait que chaque jour, 70 000 anges entrent dans la maison peuplée, ce qu'on appelle le Beit al-Ma'mour, qui se trouve au 7e ciel, et n'y reviennent jamais, chaque jour. Et ils n'y reviennent jamais. Chaque jour, 70 000. Hein? Rapporté par Al-Bukhari, 3207, et Muslim, numéro 259. Muslim, maintenant, il a rapporté dans son authentique, dans son sahih, 2842, d'après Abdullah ibn Mas'ud, quand dans la grecque, il a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, en ce jour, l'enfer qui a 70 000 brides sera amené. C'est quel jour, ça? Non. À chaque bride, 70 000 anges qui le tirent. On a dit quoi? L'enfer qui a 70 000 brides sera amené. À chaque bride, 70 000 anges qui le tirent. Cheikh, il dit, « والملائكة منهم الموكلون بالوحي والموكلون بالقطر والموكلون بالموت والموكلون بالأرحام والموكلون بالجنة والموكلون بالنار والموكلون بغير ذلك وكل مستسلمون منقاد لأمر الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقد سمي منهم في الكتاب والسنة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير والواجب الإيمان بمن سمي منهم ومن لم يسم والواجب أيضا الإيمان والتصديق بكل ما جاء في الكتاب العزيز وصحت به السنة من أخبار عن الملائكة. Certains anges, mais ils parlent des tâches, des responsabilités des anges. Ils disent certains anges sont chargés de la révélation, d'autres de la pluie, d'autres de la mort, d'autres des matrices, d'autres encore du paradis, d'autres de l'enfer, et d'autres encore chargés d'autres choses. Tous sont soumis à l'ordre d'Allah, ils ne désobéissent pas à Allah dans ce quoi il leur a ordonné. Il fait référence à quel verset? De sourate Tahrim, « Ya ayyul ladina amanu qu'u anfusakum ahlikum nara wa quduha annas wal hijara alayha malaikatun shidadun la ghiladun shidadun la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. » C'est ça le verset qu'il fait référence ici. C'est-à-dire quoi? Ils ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce quoi il leur a ordonné et accomplissent ce qu'il leur a été commandé de faire. Certains sont nommés dans le Coran et la Sunna, comme Jibril, dans le hadith qu'on a, hein? Mikaïl, Israfil, Malik, Munkar et Nakir. Ce qui est obligatoire, c'est de croire en ceux qui ont été nommés et ceux qui n'ont pas été nommés. Et ce qui est également obligatoire, c'est de croire et de reconnaître tout ce dont le Coran et la Sunna authentique ont informé au sujet des anges. Pourquoi? Parce que c'est la révélation. Tu es obligé d'y croire, Arifillah. Après, la croyance en Allah et la croyance en les anges, c'est quoi? Les livres, le kutub. والإيمان بالكتب التصديق والإقرار بكل كتاب أنزله الله على رسوله على رسول عفوا من رسله واعتقاد أنها حق وأنها منزلة غير مخلوقة وأنها مشتملة على ما في سعادة ما أنزلت إليهم وأن من أخذ بها سلم وظفر ومن أعرض عنها خاب وخسر ومن هذه الكتب ما سمي في القرآن ومنها من لم يسم والذي سمي منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وقد جاء ذكر صحف إبراهيم وموسى في موضعين من القرآن في سورة النجم الأعلى وزبور داود جاء في القرآن في موضعين، في النساء والإسراء، قال الله عز وجل فيهما وآتينا داود زبورا. وأما التوراة والإنجيل فقد جاء ذكرهما في كثير من صور القرآن، وأكثرهما ذكرا التوراة، فلم يذكر في القرآن رسول مثل ما ذكر موسى، ولم يذكر فيه كتاب مثل ما ذكر كتاب موسى. ويأتي بذكره بلفظ التوراة والكتاب والفرقان والضياء والذكر. On a parlé de la croyance en Allah Azza wa Jal. On a parlé de la croyance aux anges. On parle maintenant de la croyance dans les livres ou aux livres. La croyance en les livres en reconnaissant et attestant tout livre qu'Allah a révélé à l'un de ses messagers et de croire qu'ils sont une vérité et qu'ils ont été révélés et pas créés. Il y a ikhwa, non, je parle plus spécifiquement du Coran. Il y a une bid'a qui est apparue à un certain siècle dans l'histoire de l'islam qui s'appelle la bid'a de dire que le Coran est créé. Et vous connaissez peut-être l'histoire de l'imam Ahmed rahmahullah, et comment il a souffert, hein, rahmatullah alayh, et comment il a défendu le madhab des salafs vis-à-vis de ça. Et c'est devenu une école pour nous d'ailleurs maintenant. Et comment il se comportait dans cette fitna. Je vais vous dire une phrase, retenez-la, enseignez-la à vos familles, à tout ce que vous pouvez, à vos enfants, etc. C'est Al-Iman. Afwan, Al-Quran, on parle du Quran, yak? Al-Quran. Kalamullah. Ghayru makhluq. Tu te tais pas, tu dis pas Al-Quran, Kalamullah, tu te tais. Là. Al-Quran, Kalamullah, et tu dis Ghayru makhluq. En français, retenez-la. Le Coran est la parole d'Allah et il n'est pas créé. Tu peux pas te taire, tu peux pas te dire le Coran, c'est la parole d'Allah et tu te tais. Le Coran, Kalamullah, Ghayru makhluq. Avec ça, tu es sur la voie des salafs, la voie du prédécesseur, la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des sahabes, de ceux qui nous ont suivis de manière excellente. Faire attention. Je vais vous rappeler un petit truc qui peut-être vous intéresser, parce que c'est un sujet à la matière. C'est qu'un jour, il y avait un débat télévisé en Belgique. Ils ont mis des pseudo-spécialistes de l'islam, c'est-à-dire des chouans musulmans. Ils ont mis des orientalistes en face de lui. Et celui qui gère le débat, les gens ne le connaissent pas, ils le prennent pour quelqu'un qui est pas très intelligent, mais c'est quelqu'un de dangereux. Et c'est quelqu'un que j'ai eu moi comme professeur en logique et argumentation, et en à l'université, etc. C'est un prof de philosophie à la base. Je ne citerai pas son nom. Il a des émissions connues à la télévision, etc. Et lui, il sait comment gérer ce genre de débat, etc. Même si les gens le prennent pour... Et une des orientalistes a dit, ou que lui il a dit, mais pourquoi, si ce verset les dérange, pourquoi vous ne le retirez pas? La personne pseudo-spécialiste de l'islam, il a dit, oui, mais enfin, c'est un texte sacré. Vous savez ce qu'est l'idée de l'orientaliste? Il dit, mais enfin, il y a des thèses en islam qui existent. Comme quoi le Coran est créé. Et en disant cela, on désacralise le texte. Donc on peut quoi? On peut le changer. Vous voyez, même les koufars, ils posent ce genre de croyances. Le Coran, c'est kalamullah. On ne peut le changer et il ne changera jamais. Qu'il veuille ou non. Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, il défend son livre. Et toi, tu veux le changer. Il faut bien comprendre. Il ne faut pas être naïf. La croyance des gens de la sunna, ijma' des ulama, consensus des ulama, c'est le Coran, kalamullah Azza wa Jal. Retournez aux livres des anciens, comme Usul Sunnah de l'imam Ahmed. Et Usul Sunnah d'un autre savant qui s'appelle Ibn Abi Zamanin. Usul Sunnah de l'Humaydi. Sharh Sunnah de l'Barbahari. Sharh Usul Al-Tiqad Lakaï. Tous ces livres-là des anciens, la croyance, elle est compilée, elle est là. Et ils rapportent avec des chaînes de transmission le consensus des sahaba là-dessus, le consensus des ulama et des gens de la sunna là-dessus. Donc toute personne qui dirait le contraire, regardez l'Ha'iyya, le magnifique poème de Ibn Abi Daoud, le fils d'Abu Daoud qui a fait les livres de la sunna, Sunan Abi Daoud. Ouais, Ibn Abi Daoud, son fils était un savant aussi. Il a fait un poème dans l'Aqidah de la Sunna. Il faudrait qu'on fasse en cours parce qu'il est magnifique. Cheikh Al-Fawzi l'a expliqué. C'était imprimé d'ailleurs, c'était édité. Hein? Cheikh Abd Razak Al-Badr l'a fait, c'était édité aussi. Hein? Qui s'appelle Al-Ha'iyya. Hein? Pourquoi ça s'appelle Ha'iyya? Parce que tous les vers ils se terminent en Ha. Par exemple, il y a un vers qui dit Wala taku bid'iyya la'allaka tuflihu. Ils ne sont pas innovateurs et tu accéderas certainement au succès, Inch'Allah. La'allaka tuflihu. Ou peut-être accéderas-tu au succès. Donc il faut bien comprendre ce qu'il a dit le Cheikh ici et qu'ils ont été révélés et pas créés. Et qu'il y a dans ces livres le bonheur pour ceux à qui ils ont été révélés. Et que toute personne qui les met en pratique sera préservée et réussira, et celui qui ne l'est pas en pratique échouera et perdra. Parmi ces livres, certains ont été nommés dans le Coran, et certains n'ont pas été nommés. Ceux qui ont été nommés dans le Coran sont la Torah, l'Évangile, l'Injil, et les psaumes, et les feuilles d'Abraham et de Moussa, Zabur et Souhaf Ibrahim et Moussa. Les feuilles d'Abraham et de Moussa ont été citées deux fois dans le Coran. Dans Surat Najm et Surat Al-A'la. Souhaf Ibrahim et Moussa. Les psaumes de David ont été cités deux fois dans le Coran dans les Surat An-Nisa et Al-Isra. La traduction du sens de la parole d'Allah dans les deux sourates dit « Et nous avons donné les psaumes à David. » Tandis que la Torah et l'Évangile ont été cités dans de nombreuses sourates du Coran. Et le plus cité, c'est quoi dans les livres? C'est la Torah. Le livre le plus cité dans le Coran, c'est Torah. La Torah. Aucun messager n'a été autant été cité dans le Coran comme Moïse. Il a été cité. Et aucun livre n'y a autant été cité comme le livre de Moïse y a été cité. Il y est cité avec les noms suivants. Qui a été cité avec les noms suivants? Torah, la Torah. Vous suivez? Ben, un premier nom, c'est quoi? C'est la Torah, la Torah, le livre, Al-Kitab, le discernement, Furqan, la lumière. Al-Diya et le rappel, Al-Zikr. Parmi les choses par lesquelles le Coran se distingue des livres qui ont précédé le Cheikh ici, « وَمِمَّا يَمْتَزُ بِالْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ كَوْنُهُ الْمُعْجِزَ الْخَالِدَةِ وَتَكَفُّلُ اللَّهِ بِحِفْدِهِ » C'est exactement ce que je disais avant. « وَسَلَامَتُهُ مِنَ التَّحْرِيفِ وَنُزُولُهُ مُنَجَّمَ مُفَرَّقَ » Maintenant, comment se distingue le Coran par rapport à ces autres livres qui ont été révélés? Attention, la Bible que vous avez aujourd'hui dans la FNAC ou quoi, ce n'est pas la Bible qui a été révélée. D'accord? D'ailleurs, une fois, je discutais avec des évangélistes et des évangélistes américains. Et j'ai dit, je te pose une simple question. J'étais en train de dire la Bible, elle dit, quelle Bible? Vous-même, vous n'êtes pas d'accord entre vous, vous n'êtes pas d'accord la Bible. En quelle langue elle a été révélée la Bible? En français? En anglais? Non. Donc, alors, prochaine fois, quand tu me parles, ne dis pas dans la Bible, dis dans la traduction que j'ai de la Bible. D'accord, ça c'est une première chose. La traduction de quel texte? Et c'est quelle Bible que tu prends toi? Paul, Marc, qui? C'est qui tu prends? En sachant que la majorité des gens qui rapportaient les textes d'Isa, de Jésus, il n'y en a que deux qui ont vu Isa, alayhi salam. Et en plus, c'est une retranscription historique de ce qui s'est passé à l'époque d'Isa, alayhi salam. En sachant que certaines, elles ont été, il y a de l'idolâtrie qui a été rajoutée. Et si je me souviens bien, c'est celle de Paul d'ailleurs. Boulus en arabe. Boulus. Le Cheikh Mohamed Ibrahim, rahmatullah alayhi, dans son Majmou' al-Fatawa, dans le premier volume, il rapporte tout ça. Il rapporte les différentes Bibles, il rapporte tout ça, etc. Il parle en détail de ça. Donc nous, quand on parle de la Bible ici, c'est de quelle Bible? Quel évangile, si vous voulez, plutôt? C'est celle qui a été révélée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Pas celle que les chrétiens ont changé qu'on a aujourd'hui. Vous comprenez ça ou pas? Parce que si tu dis non, la Bible est là en anglais, tu lui dis l'anglais, combien d'années la langue anglaise, elle-même la langue anglaise, depuis quel siècle elle existe la langue anglaise? Faut réfléchir avant que tu parles. Sur le latin. Alhamdoulilah, moi j'ai un bac en latin. Je dis latin, mon frère, enfin pas mon frère, Afon, astaghfirullah. Hein? Ça, c'est si tu parles avec un frère, tu essaies de discuter avec lui, tu fais. Hein? Vous étudiez ensemble. Je veux dire, si tu parles à un évangéliste, tu dis pas mon frère, évidemment. Hein? Tu dis quoi? Tu dis le latin. La Bible, elle était révélée en latin. Prouve-le-moi qu'elle était révélée en latin. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire ici? Le texte original, il ne s'y réfère pas. Où est le texte original? On a dit quoi ici? Que maintenant, on voit pourquoi le Coran se distingue par rapport aux autres livres. Eh bien, cher, il dit... Le Coran se distingue, parmi les choses par lesquelles le Coran se distingue des livres qui l'ont précédé, et qu'il soit le miracle éternel. Et qu'Allah soit porté garant de sa protection. Et qu'il soit préservé de toute altération, et qu'il est révélé par fragments. La croyance aux envoyés, c'est de reconnaître et d'attester qu'Allah a choisi parmi les gens des envoyés des prophètes. Là maintenant on arrive à quel pilier? Après la croyance en Allah, la croyance en les anges, les croyances en les livres, troisième, maintenant c'est le quatrième pilier, c'est la croyance au Rasoul, au messager. Et bien, Cheikh, il dit وَالْإِيمَانِ بِالرُّسُولِ التَّصْدِيقُ وَالْإِقْرَارِ بِأَنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنَ الْبَشَرِ رُسُولًا وَأَنْبِيَاءَ يَهْدُونَ النَّاسِ إِلَى الْحَقِّ. Et avant que j'oublie, si vous voulez un livre, un beau livre, un magnifique livre sur Jésus alayhi salam, sur Isa alayhi salam, Cheikh Rabi, il en a fait un, vous savez ça? Et c'est une da'wa qu'il fait au pape d'ailleurs. Et il appelle les chrétiens à se repentir quant à leur croyance par rapport à Jésus alayhi salam. Ce livre-là, il devrait être traduit en français. On demande à Allah Azul qu'il nous facilite qu'on le traduise un jour en français. Les frères de Hollande, ils l'ont fait. Ils l'ont traduit. Et les frères anglais aussi. Et les frères de Hollande, en plus de traduire, il y a des frères qui étaient salafis, qui étaient chrétiens avant, ils ont mis leur témoignage à la fin du livre, etc. Et comment, hein, comment ils sont convertis, etc. etc. Et le livre, il est excellent. Je veux dire, Cheikh Rabi, hein, très complet. Sa vision, elle est large dans l'ilm. Oui, il a écrit. Il a, comment j'avais dit, Annie, il a écrit que. Le titre, c'est. Hein? Oui, c'est Rissala, plus dans le sens épître. Tu vois pas une lettre comme tu écris une lettre. Ou... C'est une tête Rissala, c'est pas très grand, mais c'est. Il a fait plus ou moins le format de ça, plus ou moins. Plus ou moins, peut-être un petit peu moins. Il est en bleu. Et si je me souviens bien, c'est. J'ai peur de dire une bêtise vis-à-vis du titre. Ça fait longtemps que j'ai lu le titre à la Koulihal. Mais il est imprimé. Et pour les frères qui ont la compilation de Cheikh Rabi', de toutes ses fatawas, en 15 volumes, eh bien, dans un des volumes, il y a ce livre-là. Hein? Quand je dis fatawa, c'est ils ont fait une compilation de 15 volumes. Ils ont mis beaucoup de livres dans l'Aqidah, notamment Usul Sunnah, Aqidat Sabouni, et d'autres livres, etc. Des réfutations, des livres qu'il écrit dans beaucoup de domaines, etc. D'ailleurs, vous savez qu'il y a 4 livres qui sont sortis ce mois-ci de Cheikh Rabi'a. Vous savez ça ou pas? Il y a un livre qui est que sur les assises de tafsir du Coran que Cheikh Rabi'a faisait chez lui à la maison. Un gros tome comme ça. Il y a un autre livre qui est sorti sur tout ce qui est zuhd al-raqa'iq, toutes les choses qui sont des rappels, etc. Hein? Un autre tome, un gros tome aussi qui est sorti sur tous les conseils aux jeunes, à la jeunesse. Et le quatrième, ah oui, c'est Aqidat al-Raziyin. Ce qu'on appelle un livre dans l'Aqida de deux savants qui s'appellent al-Razi. Tous les deux, c'est pour ça qu'on l'appelle al-Raziyin, l'Aqida des deux Razi. Hein? Et Cheikh Rabi, il a expliqué, c'est imprimé aussi. On a dit. الإيمان بالرسل التصديق والإقرار بأن الله اصطفى من البشر رسلا وأنبياء يهدون الناس إلى الحق ويخرجونهم من الظلمات إلى النور قال الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس والجن ليس فيهم رسل بل فيهم النذر كما قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لم يجب داعي الله ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فلم يذكروا رسلا منهم ولا كتبا أنزلت عليهم، وإنما ذكروا الكتابين المنزلين على موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ولم يأتي ذكر الإنجيل مع أنه منزل من بعد موسى، وذلك أن كثيرا من الأحكام التي في الإنجيل قد جاءت في التوراة. شيخ كيسكيل ديسي يدي لا كرويونس اوز انفويي اون ا دي كو سي الكاتريم بيليي سي دو ريكونيتر اي داتيستي ك الله عز وجل ا شوازي parmi les gens des envoyés et des prophètes qui guident les gens vers la vérité et les font sortir de l'obscurité vers quoi? Vers la lumière. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, et ça c'est la preuve qu'on dit yastafi, hein? C'est quoi? Il choisit. Il les a élus, hein? Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. D'accord? Vous comprenez ça ou pas? Donc il y a des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Maintenant quelqu'un va dire les djinns. Cheikh, il dit, les djinns n'ont pas de messagers, ils n'ont pas de rasoul, mais ils ont un autre terme qui est quoi? Al-Nudhur. Qui sont quoi? Mais des avertisseurs. Comme la traduction du sens de la parole d'Allah dit, rappelle-toi lorsque nous dirigeons vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils se dirent, taisez-vous et écoutez attentivement. Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple. Comment? Hein, en avertisseur. Ils dirent, ô notre peuple, répondez aux prêcheurs d'Allah et croyez en lui. Il, c'est-à-dire qui Allah, vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Et quiconque ne répond pas aux prêcheurs d'Allah ne saura échapper au pouvoir d'Allah sur terre. Et il n'aura pas de protecteur en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement évident, surat al-Ahqaf, versets 29 à 32. Cher, il dit, ils n'ont pas cité de messagers parmi eux, ni de livres qui leur aient été révélés. Mais de plus, ils n'ont cité que les deux livres révélés à Moïse et à Mohammed. Et l'évangile n'a pas été cité ici, alors qu'il a été révélé après Moïse. C'est qui arrive en premier, Moïse ou Jésus? Moussa, alayhi salam. Car beaucoup de jugements qui sont dans l'évangile sont déjà dans la Torah. Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ce verset? قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات ولم يذكروا عيسى لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم وفي الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة فالعمدة هو التوراة فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى. شيخ الدي ابن كثير كيف قال dans son exégèse de ces versets du Coran de quel verset سورة الأحقاف. Ils n'ont pas cité Jésus, car ce qui a été révélé à Jésus, c'est l'évangile, dans lequel il y a des rappels et des exhortations, mais peu de permissions et d'interdictions. Il est en vérité venu compléter la législation de la Torah. Donc l'évangile, il est venu compléter quoi? La législation de la Torah. La base donc, c'est quoi? La Torah. C'est pour cela qu'on dit révélé après Moïse. Les messagers, Cheikh, il dit, والرسل هم المكلفون بإبلاغ شرائع أنزلت عليهم كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب اسم جنس يراد به الكتب، والأنبياء هم الذين أوحي إليهم بأن يبلغوا شريعة سابقة كما قال الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله الآية. وقد قام الرسل والأنبياء بتبليغ ما أميروا بتبليغه على التمام والكمال كما قال الله عز وجل فعلى الرسل إلى البلاغ المبين. وقال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قال الزهري رحمه الله من الله عز وجل الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. ورواه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. رسالاته. رسالاته في الكوركسيون. على كل حال شيخ يقول les messagers sont chargés de transmettre les législations qui leur ont été révélées. Comme la traduction du sens de la parole d'Allah dit, nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance. Surat al-Hadid, verset 25. Le terme ici, livre, écoutez, regardez la langue arabe. Hein, le livre, mais en fait, ce n'est pas ça qu'il faut comprendre ici. Le terme le livre, ici, c'est un nom générique. Désignant quoi? Les livres. Et les prophètes sont ceux à qui était révélé l'ordre de transmettre une législation précédente. Donc, qu'est-ce qui nous a donné ici la différence entre quoi? Un messager et un prophète. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a un guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les savants et les rabbins, jugés par elle entre les juifs, car on leur a confié la garde du livre d'Allah. Surat al-Ma'ida, verset 44. Vous comprenez la différence entre messager et prophète maintenant? Hein? C'est quoi la différence? Le messager, comment il l'a défini ici? Cheikh, il a dit, les messagers sont chargés de transmettre les législations qui leur ont été révélées. D'accord? Tandis qu'ici, il a dit quoi? Et les prophètes sont ceux à qui était révélé l'ordre de transmettre les législations précédentes. D'accord? Ça va? Vous connaissez la différence maintenant? Il y a des discussions par rapport entre les ulama pour savoir quelle est la différence, etc. Cheikh Falah Ismail nous a amené une longue explication dans un des cours. À la Coran, on va suffire à cela aujourd'hui, parce qu'on voudrait terminer le cours. Et Cheikh, il dit ensuite un point très important, et ça rejoint ce que je disais sur le bid'a. Les messagers et les prophètes ont transmis ce qui leur a été révélé de la manière la plus complète et la plus parfaite. Attends, viens pas commencer à innover dans la religion. La traduction du sens de la parole d'Allah dit il n'incombe au messager que de transmettre clairement le message. Surat Nahl, verset 35. Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe en enfer. Et puis quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront des messagers parmi vous ne vous sont-ils pas venus? Vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici? Ils diront si. Mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Surat Zumar, verset 71. Qu'est-ce que l'imam Zuhri, rahimahullah, il a dit par rapport à ce verset? Il a dit, d'Allah vient le message. Et au messager d'Allah revient la transmission. Et nous devons nous y soumettre. Min Allah al-Risala, wa ala al-Rasul al-Balag, wa alayna al-Taslim. C'est rapporté par le Bukhari dans son authentique, dans le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, chapitre de la parole d'Allah. Il y a un chapitre de l'unicité dans le Kitab dans Sahih al-Bukhari, dont la traduction du sens est, d'ailleurs, Cheikh Al-Athaymin l'a expliqué, parce qu'il a expliqué tout Sahih al-Bukhari. Ô messager, transmets ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Vous avez entendu, hein? Ô messager, transmets ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, tu n'aurais pas transmis son message. Voir le Fath, c'est quoi le Fath ici? Fath al-Bari. Quelle explication de quoi? Sahih al-Bukhari, volume 13, page 503. Le Cheikh continue un point encore sur les messagers. Il dit الرسل منهم من قصة في القرآن ومنهم لم يقصص كما قال الله عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وقال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك والذي نقص في القرآن 25 ومنهم ثمانية عشر جاء ذكرهم في سورة الأنعام في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Le récit de certains messagers est mentionné dans le Coran, mais d'autres non. Comme la traduction de la parole d'Allah le dit, et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous t'avons pas raconté l'histoire. Surat Nisa, verset 164. Et la prédiction de la parole d'Allah, certes, nous avons envoyé avant toi des messagers, il y en a dont nous t'avons raconté l'histoire, et d'autres dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Sourate Ghafir, verset 78. Ceux dont le récit a été cité dans le Coran sont au nombre de 25. Retenez ce chiffre-là, 25. Parmi lesquels 18 ont été mentionnés dans la sourate Al-An'am. Donc il y a combien de messagers dont l'histoire a été racontée dans le Coran? 25. Il y a un verset dans sourate quoi? Al-An'am qui a cité combien de messagers? 18. On est d'accord ou pas? Ce verset, la traduction du sens, c'est quoi? Tel est l'argument par lequel nous donnâmes le dessus à Ibrahim, sur son peuple. Nous élevons en degré qui nous voulons. Ton Seigneur est certes sage et il sait tout. Et nous lui avons accordé Ishaq et Yaakob, que nous guidâmes tous deux. Et Nuh, nous l'avons guidé auparavant, et parmi sa descendance, Daoud et Suleyman et Ayoub et Youssef et Moussa et Haroun. On est déjà combien? 9. Et c'est ainsi que nous recommençons les bienfaisants. De même, Zakaria, Yahya, Issa et Ilyas furent tous des êtres pieux. De même que Ismaïl, Al-Yasa', Younous et Lot. Nous favorisâmes chacun d'eux sur le reste du monde. On en a donc combien? On les a bien comptés ou pas? Hein? Tu crois? Hein? Surat Al-An'am, verset 83-86. Maintenant, 25 moins 18. Hein? Oh là là. Hein? Les 7 restants sont... Là, je peux rien faire, Akhi. Hein? Les 7 restants sont qui? والسبع الباقون آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل ومحمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. Les sept restants c'est qui? Adam, Idris, qui encore? Hud, Salih, Shu'aib, ذو الكفل et Muhammad. Salatullah salam wa barakatuhu alayhim ajma'in. D'accord? Maintenant, on arrive au prochain pilier. C'est quoi? Le jour dernier, non. Al-Iman bil yawm al-akhir, at-tasdiq wa al-iqrar bi kulli ma ja'a fi al-kitab wa sunnah an kulli ma yakunu ba'da al-maut. Wa qad ja'ala Allah ad-dur darain, dar ad-dunya wa dar al-akhirah. Et si on fait le cours tout à l'heure, je pense qu'on va essayer de le faire. Après Salat al-Asr, peut-être qu'on fera deux cours, c'est-à-dire un cours Inch'Allah plus un petit break, hein? Ou alors on le fera après le Maghrib, on verra Inch'Allah. Mais de toute façon, hein? C'est ce que j'ai dit, il y a le rappel sur Surat al-Fraq al-Qari'a, mais ça part de Yom al-Qiyamah en fait, de comment les gens ils vont sortir des tombes, etc. Et comment, hein? C'est un rappel très fort de Cheikh Al-Zimari, hafidhahullah. Donc normalement on devrait avoir deux cours après l'Asr, Inch'Allah. Soit on fera pour terminer Cheikh Abdelrazak al-Badr, ou en tout cas pour bien avancer. Et alors on fera après le Maghrib celui de Surat al-Qari'a, et dimanche donc matin on terminera celui de Cheikh Abdelrazak. Hein? Parce que je préfère le faire le soir, parce que je pense qu'il y aura peut-être plus de monde. Allah alam. والحد الفاصل بين هاتين الدارين الموت والنفخ في الصور الذي يحصل به موت من كان حيا في آخر الدنيا. وكل من مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء والحياة بعد الموت حياتان حياة برزخية وهي ما بين الموت والبعث والحياة بعد الموت والحياة البرزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل وهي تابعة للحياة بعد الموت لأن في كل منهما الجزاء على الأعمال وأهل السعادة منعمون في القبور بنعيم الجنة وأهل الشقاوة معذبون فيها بعذاب النار نسأل الله عز وجل ها demande Allah Azza qui nous préserve de ce châtiment-là. De quoi on parle ici? On parle de la foi au jour dernier. C'est d'attester, c'est le cinquième pilier, c'est d'attester et de reconnaître tout ce qui a été rapporté dans le Coran et la Sunna sur ce qu'il y aura après la mort. Allah a fait que les demeures soient au nombre de deux, la demeure de ce bas monde et la demeure de l'au-delà. Et ce qui est la ligne de démarcation entre les deux, c'est la mort et le soufflement dans la trompe, qui provoquera la mort de tous ceux qui seront encore en vie à la fin de ce monde. Toute personne qui meurt sa dernière heure à lui est arrivée. Et passe de cette demeure d'action à celle de la récompense. La vie après la mort est de deux types. Une vie barzakhia, qui est le temps entre la mort et la résurrection. Et la vie après la mort et la vie barzakhia, Allah seul en connaît la réalité. Et elle suit la vie qui est après la mort, car il y a dans chacune d'entre elles une récompense en fonction des actions. Les bienheureux seront comblés de bienfaits des délices du paradis dans leur tombe. Et là, on demande qu'Allah Azza wa Jalla qu'on fasse partie d'eux. Et les malheureux, ils seront châtiés avec le châtiment de l'enfer et ne chercheront refuge en Allah Azza wa Jalla contre cela. Maintenant, Cheikh, il dit, qu'est-ce qui entre dans l'iman en ce jour dernier ? Cheikh, il dit, وَيَدْخُلُوا فِي الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ الْإِيمَانِ بِالْبَعْثِ وَالْحَسْرِ وَالشَّفَاعَ وَالْحَوْضِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ وَالصِّرَاطِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Si vous voulez avoir plus de détails, lisez des livres comme l'Ouassitiyya, de Cheikh l'Islam Al-Taymiyyah, rahimahullah. Entre dans la croyance au jour dernier, la croyance en la résurrection, le rassemblement, l'intercession, le bassin, le jugement, la balance, le chemin, le paradis, l'enfer et d'autres choses encore qui ont été rapportées dans le Coran et la Sunna. Cheikh il dit, wal iman bil qadar. C'est quel pilier ça maintenant? Sixième. Et le dernier des six piliers de la foi, pour lequel Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, il a rapporté ce hadith. Situez toujours ça. والإيمان بالقدر الإيمان بأن الله قدر كل ما هو كائن إلى يوم القيامة وله مراتب أربعة. Retenez ces quatre degrés. Très important. La croyance à la prédestination et la croyance en ce qu'Allah a prédestiné tout ce qui existe jusqu'au jour du jugement dernier. Et la prédestination à 4 degrés. D'ailleurs, les ulama, ils l'ont compilé dans des poèmes, etc. D'accord ? Premier, c'est quoi ? Ilmullahi azalan bi kulli ma huwa ka'in. La science. La science d'Allah éternelle de tout ce qui existe. Les ulama disent ilmun fa kitabatun fa iradatun fa khalqun. Hein ? Science, l'écriture, la volonté. Création. On va les rapporter un par un. Donc le premier c'est quoi? La science. Et d'Allah éternel de tout ce qui existe. Ilmullah azalan bi kulli ma huwa ka'in. Wa kitabatu al-maqadir qabla khalqi as-samawati al-ard bi 50000 sana. Deuxième c'est quoi? Degré, son écriture de tout ce qui était prédestiné et ce 50000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc science éternelle de tout ce qui existe. Son écriture de tout ce qui était prédestiné et ce 50000 ans avant la création des cieux et de la terre. Troisième, wa mashi'atuhu kulla muqaddarin. Sa volonté de toutes choses prédestinées. Sa volonté, subhanahu wa ta'ala, de toutes choses prédestinées. Donc science, éternelle, écriture et volonté de toutes choses qui est prédestinée. Quatrième, c'est quoi? خلق الله وإيجاده لكل ما قدره طبقا لما علمه وكتبه وشاء. Allah crée et fait exister tout ce qu'il a prédestiné conformément à ce qu'il a su, écrit et voulu. Vous voyez l'importance de ce genre de cours. On parle encore une fois des fondements de notre religion. فيجب الإيمان بهذه المراتب واعتقاد أن كل شيء شاءه الله لابد من وجوده. وأن كل شيء لم يشأه الله لا يمكن وجوده. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وسيأتي في الحديث التاسع عشر أي من الأحاديث الأربع النووية. Il est donc obligatoire de croire en ces degrés et que toute chose qu'Allah a voulu se doit d'exister et que toute chose qu'il n'a pas voulu ne peut exister. Et c'est cela le sens de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. Et sache que ce qui t'atteint n'aurait pu t'éviter et que ce qui t'a évité n'aurait pu t'atteindre. Ce hadith d'ailleurs, il est le 19e hadith dans les 42 hadiths de l'imam An-Nawawi rahimahullah. On a fini avec ça le 7e point qui concernait le fait de s'attacher à étudier quoi? Ne dites pas le 7e pilier. De quoi on parle depuis hier? Ça, je sais bien, mais on a fini un point là maintenant. Il faut avoir un plan. Vous n'avez pas un plan dans la tête quand j'en parle. Hein? Vous êtes là, yak. Je dirais, il n'y a pas que le corps, quoi. Il y a l'esprit. Il est là, tout le monde, tout est là, yak, alhamdulillah. Hein? Donc on a parlé de quoi? Barakallahu fik, l'iman. Avec ça, on a terminé le point de l'iman. Hein? Et là, il a fait passer la classe, là. Hein? Hein? Au bac, c'est pas comme ça. Il a... Tu rates, tu réussis de brasque. Donc maintenant on parle de quoi? Ah, alhamdoulilah, l'ihsan. Ça va vous suivre, alhamdoulilah. Hein? Mais bon, il n'est pas tôt le matin. Il n'est pas tard le soir. Il veut dire qu'on est en digestion, c'est ça, après l'arda. Il y a toujours une excuse en fait. Donc bien, c'est le moment où je fais ma qailoula, c'est ça. Alors il faut prévoir ça dans le programme qui attend de qailoula. Hein? قالوا قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل اختص الله بعلم الساعة. Avec ça, j'ai oublié, vous voyez, je ne suis pas concentré moi aussi. Huitième point avant le neuvième. قالوا فاخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان على أعلى الدرجات ودونه درجة الإيمان ودون ذلك درجة الإسلام. وكل مؤمن مسلم وكل محسن مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا محسنا. ولهذا جاء في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وجاء في هذا الحديث بيان علو درجة الإحسان في قوله أن تعبد الله كأنك تراه أي تعبده كأنك واقف بين يديه تراه. ومن كان كذلك فإنه يأتي بالعبادة على التمام والكمال. وإن لم يكن على هذه الحال فعليه أن يستشعر أن الله مطلع عليه لا يخفى منه خافية فيحذر أن يراه حيث نهاه ويعمل على أن يراه حيث أمره. Sa parole, informe-moi sur l'excellence. Et on demande à Allah Azza wa Jalla qu'il fasse partie, qu'on fasse partie des muhsinin. Il répondit, alayhi salatu wa salam, que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui te voit. L'excellence, l'ihsan, est le degré le plus haut. La foi est le degré en dessous de celui de l'excellence. Et en dessous, encore, il y a le degré de l'islam. Tout croyant est un musulman. Toute personne qui a atteint le degré d'excellence qui est muhsin est croyante et musulmane. Mais est-ce que toute personne croyante et atteint l'excellence est muhsin? Vous suivez ou pas? C'est-à-dire que si tu es un muhsin, d'office, tu es quoi? Croyant musulman. Mais si tu es croyant, tu n'es peut-être pas d'office. Muhsin. C'est pour cela que la traduction du sens de la parole d'Allah dans Sourate Al-Hujurat dit, les bédouins disent nous avons la foi. Dis, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Il y a dans ce hadith la mise en évidence du haut degré de l'excellence dans sa parole. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. C'est-à-dire que tu l'adores comme si tu étais devant lui et que tu le voyais. Celui qui atteint ce degré accomplira l'adoration de manière complète. L'importance, encore une fois, de ce genre de cours. Savoir c'est quoi l'ihsan. Et c'est quoi les fruits de l'ihsan? Regarde comment tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Tu l'accompliras de manière complète. Hein? Parce que tu l'adores comme si tu le voyais. Hein? D'accord? Celui qui atteint ce degré accomplira l'adoration de manière complète et parfaite. Et si ce n'est pas le cas, alors il doit se rappeler qu'Allah sait ce qu'il fait et que rien ne lui échappe. Qu'il fasse donc attention, ça c'est une mise en garde de Cheikh Al-Masih Al-Abbad, à ce qu'Allah ne le voit pas dans une situation qu'il lui a interdite et qu'il s'efforce à ce qu'Allah le voit là où il lui a ordonné d'être. Mais quand tu fais du haram, n'as-tu pas honte qu'Allah Azza wa Jalla te voit dans cette situation-là? Neuvième point. قالوا قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل اختص الله بعلم الساعة فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ومنها علم الساعة. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمسة ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علم عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sa parole de qui? Jibril alayhi salam, informe-moi sur l'heure. Il répondit: celui qui questionnait à son sujet n'en sait pas plus que celui qui pose la question. Allah seul possède la connaissance de l'heure, ne connaît le temps de l'arrivée de l'heure que lui subhanahu wa ta'ala. C'est quoi la preuve de ça? La traduction du sens de la parole d'Allah dit: seul Allah connaît l'heure de la résurrection. C'est lui qui fait tomber la plus profitable. Il sait ce qu'il y a dans l'utérus de toute femme enceinte. Personne ne sait ce qu'il obtiendra demain et personne ne sait où il mourra. Alors qu'Allah sait vraiment tout et est parfaitement connaisseur. Surat Luqman, verset 34. Et la traduction de sa parole dit: il possède les clés de l'invisible, seul lui les connaît. Surat Al-An'am, verset 59. Et la connaissance de l'heure en fait partie. Il est rapporté dans l'authentique d'Al-Bukhari, numéro 4778, que Abdullah ibn Omar, les agrée tous deux, a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les clés de l'invisible sont au nombre de 5. Puis il récita le verset dont la traduction du sens est: il possède les clés de l'invisible, seul lui les connaît. Et la traduction du sens de la parole d'Allah dit: et il t'interroge sur l'heure, quand viendra-t-elle? Dit: seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la fera apparaître en son temps. Elle sera lourde dans les cieux et sur terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dit: seul Allah, comprenez ici maintenant, seul Allah en a connaissance, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate Al-A'raf, verset 187. Maintenant, il y a quelqu'un qui va peut-être dire: oui, mais il y a des textes qui disent que ça va arriver un vendredi. C'est vrai, il y a des textes. Hein? Ben, on va en parler, Inch'Allah. Cheikh, il dit: وَجَاءَ فِي السُّنَّةِ أَنَا السَّاعَةَ تَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَّا مِنْ أَيِّ سَنَةِ وَفِي أَيِّ شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ وَفِي أَيِّ جُمُعَةِ مِنَ الشَّهْرِ فَلَا يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا اللَّهِ فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فيه خلق آدم وفيه أحبط وفيها تيب عليه وفيها مات وفيها تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفق من الساعة إلا الجن والإنس. والحديث هو حديث صحيح رجاله رجال الكتب الستة إلا القعنبي فلم يخرج له ابن ماجه. Cheikh il dit, il a été rapporté dans la sunna que l'heure surviendra un vendredi. On y croit. Il n'y a pas de problème avec ça. Tandis que de savoir quelle année maintenant, et quel mois de l'année, et quel vendredi du mois, seul Allah le sait. Il a été rapporté dans Sunan Abi Daoud, numéro 1046, d'Abu Huraira, qu'Abu Huraira a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur des jours sur lesquels le jour se lève est le vendredi. En ce jour a été créé Adam, et en ce jour il fut descendu sur terre, et c'est en ce jour qu'il lui fut pardonné. Et en ce jour qu'il mourut, et en ce jour l'heure surviendra. Voilà le dalil. Quel jour? Le vendredi. Chaque bête guette sa venue. Chaque bête, hein, guette sa venue. Chaque vendredi, de l'aube jusqu'au lever du soleil, de peur de la venue de l'heure. À l'exception faite des hommes et des djinns. Jusqu'à la fin du hadith. Et c'est un hadith authentique dont les rapporteurs de la chaîne de transmission font partie des rapporteurs de six livres. C'est quoi les six livres? Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Mais ces rapporteurs font partie des rapporteurs des six livres, sauf Al-Qa'nabi, qui ne fait partie des rapporteurs qui n'a pas été rapporté par Ibn Majah. Puis il dit: وقوله ما المسؤول عنها بأعلى من السائل معناه أن الخلق لا يعلمون متى تقوم وأن أي سائل وأي مسؤول سواء في عدم العلم بها. Point suivant, ou plutôt pour finir ce point là, le sens de cela est que les gens ne savent pas quand l'heure surviendra, et sa parole, celui qui questionne à son sujet n'en sait pas plus que celui qui questionne. Le sens de cela est que les gens ne savent pas quand l'heure surviendra, et que celui qui questionne et toute personne qui serait questionnée n'en savent rien, et sont tous au même niveau à ce sujet. Maintenant sa parole. ومعنى قوله فأخبرني عن أماراتها. Il a dit alors informe-moi sur ces signes précurseurs. Là, on arrive petit à petit à la fin du hadith. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أمارتها أي علاماتها وعلامات الساعة تنقسم لقسمين. علامات قريبة من قيامها كخروج الشمس من مغربها وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء وغيرها وعلامات قبل ذلك ومنها العلامتان المذكورتان في هذا الحديث. Sa parole, informe-moi alors de ces signes précurseurs. Il répondit que tu vois la servante engendrer sa maîtresse et que tu vois les va-nu-pieds, les nus, les miséreux, les bergers se concurrencer dans la construction de bâtisses de plus en plus hautes. Les signes de l'heure sont de deux types. Des signes proches du temps où elle surviendra, comme le lever du soleil à l'ouest. Où est-ce qu'il se lève le soleil ? À l'est, il se couche à l'ouest. Maintenant, là, le lever du soleil sera à l'ouest. Et la sortie du Dajjal, le faux messie. Tout ça, c'est compilé dans l'aqidah des gens de la sunnah. L'imam Ahmed, elle en a parlé dans Usul Sunnah, notamment. On a fait un cours à Birmingham, c'est sur notre site SPF Birmingham, il y a un chapitre sur Khuruj al-Dajjal. Il faut savoir, les frères, parce que s'il sort, hein, et que toi, tu es là, qu'est-ce que tu fais ? Comment tu te comportes ? Hein ? Comment tu fais ? Hein ? Là, elle, mon frère. Qu'est-ce que tu es censé faire ? Comment tu es censé réagir ? Comment tu es censé passer ce test ? Vous voyez l'importance de l'aqida ? Il faut être curieux, les frères. Il faut aller chercher, il faut apprendre. Et la sortie du peuple de Gog et Magog et la descente de Jésus, le fils de Mariam, alayhi salatu wassalam, du ciel, et d'autres encore, et parmi eux, il y a les deux signes qui ont été cités dans ce hadith. Si vous voulez, Charles Al-Athmin en a parlé aussi dans Riyad Salihin. Hein? Et Charles Al-Bani, il a fait un petit épître que là-dessus. Maintenant, le sens de « Antalidal amatu rabbataha ». Qu'est-ce que ça veut dire ? فسر بأنه إشارة إلى كثرة الفتوحات وكثرة السبي وأن من المسبيات من يطأها سيدها فتلد له فتكون أم ولد ويكون ولدها بمنزلة سيدها وفسر بتغيير الأحوال وحصول العقوق من الأولاد لآبائهم وأمهاتهم وتسلطهم عليهم حتى يكون الأولاد كأنهم سادة لآبائهم وأمهاتهم. Qu'est-ce que ça veut dire le sens de sa parole ? Que tu vois la servante engendrer sa maîtresse. Ça, c'est un des signes. Cela a été expliqué par une indication donnée sur les nombreuses conquêtes et les multiples prisonniers. Parmi les captives, il y en a qui ont des rapports avec leur maître, et de cela, un enfant est engendré. Elle est donc la mère de cet enfant qui, lui, a le rang de son maître. Cela aussi est expliqué par le changement des situations et la désobéissance des enfants envers leur père et leur mère. Et la domination des enfants sur eux, à tel point que les enfants deviennent comme s'ils étaient les maîtres de leur père et de leur mère, wal'adhu billah. Alors, Cheikh Falah Ismail, à Birmingham, nous a fait une dawra complète, tout un week-end, que sur les parents. Il a écrit, en fait, un petit livre, de mémoire, parce qu'il n'avait pas ses livres. Il a écrit un petit livre, en fait, sur l'obéissance aux parents. C'est quelque chose qui s'est passé avec, en fait, un frère qui s'est très mal comporté vis-à-vis de ses parents, et qui se comporte d'ailleurs toujours très mal envers ses parents. Et Cheikh Falah Ismail, ça lui a fait mal, et il a réagi par rapport à ça, il a fait une dawra sur tout un week-end. On a arrêté les cours de fiqh, et il a fait tout un week-end là-dessus. Cette rissa-là, je l'ai de sa propre main. Et Alhamdulillah, Cheikh Falah Ismail, il m'a donné l'autorisation de traduire tous ses livres, toutes ses cassettes, toutes ses autorisations écrites, Alhamdulillah. Mais celui-là, il a dit plus spécifiquement. Et je ne l'ai pas fait encore parce que ça prend du temps. Mais aussi parce que Cheikh, il voudrait rajouter, parce qu'il est retourné au Koweït, il voudrait rajouter des choses parce qu'il a ses livres là-bas, etc. Il voudrait rajouter. Le livre, il est déjà, la rissa-là, il est déjà pas mal. De mémoire, comme ça, il y a déjà pas mal de choses. Hein? Pourquoi les parents, il y a Ikhwa. Ah, attention. Hein? Et quand j'ai fait les dawras sur parmi les perles du Coran, je ne sais pas si certains d'entre vous ont écouté ces cours-là, non ? Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, il a fait de Sirat Luqman, les recommandations de Luqman, le sage à son fils, hein, il a fait 50 bénéfices. Et moi, je l'ai fait en une dawra, en une conférence. Il est en PDF comme ça sur le site, hein, et en audio aussi. Je l'ai fait à Birmingham, mais je l'ai fait en Belgique aussi. Hein. Et il y a plein de points sur les parents, pourquoi ? Parce que Luqman, qu'est-ce qu'il a dit à son fils ? « وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ يَشْكُرَ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Première recommandation, c'est le shirk. Ça veut dire quoi? C'est pas de faire le shirk, mais c'est de quoi? Justement, le contraire, de s'en éloigner. لا تشرك بالله. Pourquoi? Parce que le shirk est certes une grande, une énorme injustice. Et après, وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Jusqu'à la fin de la page. Les parents. Et nous avons recommandé à l'être humain, à l'individu, la bonté envers ses parents. Pourquoi? La réponse, elle est claire. Ta mère, elle t'a porté, Akhifil, 9 mois dans son ventre. Hein? Imagine, nous, on ne comprend pas ça. Les sœurs, elles comprennent ça. Être enceinte, qu'est-ce que c'est? Hein? Pendant 9 mois, avec toutes les douleurs, la fatigue, les peines, etc., plus l'accouchement. Et après quoi l'accouchement? L'allaitement. L'éducation, se lever la nuit, et l'enfant il pleure, etc. Hein? Et tout ce que ça comporte. Puis le père qui part travailler, qui te ramène à manger, qui te ramène, qui subvient à tes besoins. Hein? Et qui t'éduque. Et toi après tu te comportes mal avec eux. Hein? Et attention, qu'il n'y en a pas, il va mettre des chouboîtes. Ou le shaitan, il va dire, ah, t'es pas des koufars, ah, laisse tomber. Là, le verset est clair. Même s'ils te font le jihad, ils font des efforts, ils te combattent pour que tu sois associé à Allah. Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Fala ton terrain, ne leur obéis pas, bien sûr. Tu vas pas obéir à tes parents dans la désobéissance à Allah. Là, ta'ata li makhlouqin fi ma'asati al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Mais qu'est-ce qu'il a dit Allah après? C'est pas tu Allah Azza wa Jalla, il a dit quoi? Je veux dire, le verset, c'est pas arrêté là. C'est quoi après? وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et comporte-toi avec eux de ma'rouf dans cette dunya. Sois un compagnon avec eux de la bonne manière dans cette dunya. C'est-à-dire, sur ce point-là, tu ne les obéis pas. Mais le ma'rouf, il reste dans tout le reste. Ah oui, comporte-toi bien avec eux. Acquitte-toi de tes droits envers eux, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Fais tes obligations envers eux, dans leurs droits, avant qu'il soit trop tard. Le fait de mal se comporter aux parents et de désobéir aux parents, ce qu'on appelle l'uquq al-walidain, ça fait partie des kaba'ir, les frères, c'est pas un jeu. Allah dans le Coran, souvent quand il parle de tawhid, juste après, il parle des parents. وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. Voilà, directement. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. Parents, et surtout la mère, امك ثم Abak. Ou Thumma Abouk. 3 fois la mère. Attention les frères, c'est pas un jeu. C'est ce que je dis, j'essaie de le dire dans tous mes cours le plus possible pour toucher les gens. Va mon frère, embrasse tes parents sur le front et demande leur pardon avant qu'il soit trop tard. Fais doua pour eux. S'ils ne sont pas musulmans, appelle-les à l'islam d'abord par tes actions, par ton comportement. Comme Cheikh Falah Ismail nous a dit, hein? C'est les gens, la première chose qu'ils voient de toi, c'est ton comportement, Rifil, avant que tu parles. Je vais raconter une petite histoire, d'accord ou pas? Oui ou non? En général, les gens disent, mais non. Cheikh Falah Ismail nous a raconté que les frères en Hollande, Zamejid Salafi là-bas, les frères de la Shura, les frères de l'Assemblée de consultation de la mosquée, ils étaient assis dans la... ils discutaient dans la mosquée. Et ils voient un petit enfant qui rentre, européen, habillé européen, il rentre et s'approche, dit, excusez-moi, je voudrais vous parler, etc. Il dit, voilà, je voudrais me convertir à l'islam. Un petit Hollandais. Il dit, comment ça se fait? Où sont tes parents, etc. Il dit, ma mère, elle est à la porte, elle est là, elle n'ose pas rentrer, etc. Elle est un peu gênée et elle voudrait se convertir aussi. Les frères, ils ont dit, mais on veut comprendre, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, etc. Ils ont appelé leur femme, etc. Ils sont venus de discuter avec la mère de l'enfant qui est hollandaise. Elle leur dit, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont des voisins. Ils ont des voisins, c'est des musulmans. Et ces voisins-là, ils ont des enfants, qui ont eux-mêmes des enfants qui sont mariés. Mais malgré ça, ils viennent tous les jours chez leurs parents. Ou s'ils ne viennent pas un jour, le jour d'après, d'office, ils viennent. Et quand on a dit, mais comment ça se fait? Elle les regarde tout le temps, elle les voit tout le temps. Et elle-même, elle a des enfants, et le seul qu'elle a à la maison, c'est le petit, tout le reste est parti, elle ne les voit presque plus. Et elle a dit, mais comment ça se fait que vous êtes comme ça? Elle a dit, mais c'est comme ça chez nous, on est musulmans. Nous, on ne va pas rentrer chez nous sans qu'on sache, on soit sûr que nos parents soient bien. Et qu'ils ont besoin de rien. Et qu'on passe du temps avec eux. C'est comme ça chez nous. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, bien, je voudrais me convertir à l'islam parce que je ne voudrais pas perdre le dernier. Regardez l'akhlaq. Comportement. Comportement. L'akhlaq. Demande à tes parents. Je veux dire, demande à Allah Azza wa Jal, pardon, il demande à Allah Azza wa Jal qu'il guide tes parents. Lève-toi au dernier tir de la nuit. Lève tes mains. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala si tu es sincère. Demande, lève tes mains. Dernier tir de la nuit. Fais dua. Demande à Allah qui guide tes parents à l'islam, qui leur ouvre leur cœur à l'islam. Sois bien envers eux. Montre-leur l'islam. Apprends ton dîn, tu fais parler d'islam, tu ne connais pas l'islam. Comment ça se fait? Apprends ton dîn. Demande Allah Azza wa Jal qu'il t'apprenne ton dîn. Puis parle-leur du dîn. Et montre-leur le dîn. Prends soin d'eux. Aide-les. Sois avec eux. Passe du temps avec eux. Offre-leur des choses. Montre-leur la beauté de l'islam. C'est vrai ou pas? Comportement, c'est ça, c'est la fille. Le prophète Azim, qu'est-ce qu'il a dit? Innama bu'issu li'utammima makarim al-akhlaq. Pour compléter, pour la complétion des nobles comportements. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son comportement, c'était le Coran. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Que les gens, ils soient touchés par da'wah. Qu'ils voient la da'wah. C'est pas la da'wah, c'est juste avec les frères. Non. La da'wah, tu es comme ça parce que tu es salafi, tu fais partie des gens de la sunna, tu suis sahaba. Eh bien, regarde les sahaba comment ils étaient. Abu Huraira radiallahu anhu. Vous connaissez le livre de Bukhari qui s'appelle Adab al-Mufrad? Ce livre, j'ai été surpris, il a été traduit en français. Moi, je ne lis pas en français, mais je l'ai acheté directement en français. Ce livre, c'est un trésor. C'est une perle. C'est le même Bukhari, il a fait un livre en dehors de son sahih qu'il appelait l'Adab al-Mufrad. Pourquoi le Mufrad? Parce qu'il farada an al-Bukhari. C'est des hadiths que dans l'Adab, l'Akhlaq. Cheikh Abdelrazak al-Badr l'a expliqué en 162 cassettes. Sur son site, elles sont disponibles. Premier chapitre sur quoi? Les parents. Et il rapporte aussi par vos parents qui sont mousriquins. Il rapporte le hadith quand Abu Huraira radiallahu anhu arda, sa mère, elle disait quoi par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle parlait en bien? Non? Et ça l'a tristé, Abu Huraira radiallahu anhu arda. Elle était en pleurant chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En pleurant, regardez le hirs. Il veut la guidance de sa mère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait du'a. Et quand il est retourné chez sa mère, elle faisait le ghusl parce qu'elle s'était convertie à l'islam. C'est des beaux hadiths, ça. C'est salafia. Mais là, tes parents sont musulmans. Appelle à la sunna, ya khifillah. Appelle-les. Appelle à la sunna. Alhamdulillah, mes parents, les deux, sont salafis, walillah, alhamd. Alhamd, qu'Allah les préserve, qu'Allah leur donne une longue vie sur son obéissance, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah les récompense d'avoir accepté l'appel. Appelez les gens à la sunna. Appelez vos parents en premier à la sunna. T'appelles à droite, à gauche, à la limite, et t'appelles pas tes propres parents à la sunna. Explique, assis-toi avec ta mère, akhifillah. Quand t'as quelle cuisine, chez Haza, appelez, assis-toi avec ta mère. Lili la hadith arba'a an-nawiyya, lili usul talata. Et vous savez qu'elles sont très demandeuses, les mamans, en général, même les papas, ils demandent pas mieux. Hein? Passe du temps avec eux, écoute un dars avec eux. C'est vrai ou pas? Lui, sur le talata, qu'elle apprenne sa aqida, qu'elle sache. Beaucoup de gens, ils veulent khair. Ils veulent savoir. Ils veulent prier correctement, etc. Mon père, des fois, il me téléphone, parce que je suis un peu loin de lui, etc. J'essaie de le visiter tant que je peux. Il me dit, ouais, qu'est-ce qu'il a dit sur l'Albanie par rapport à ça? Il dit, ouais, il y a quelqu'un à la mosquée, il a dit un hadith, je veux savoir qu'est-ce qu'il a dit sur l'Albanie par rapport à ça. Hein? Parce que mon père est aveugle, en fait. Wallah, c'est ni ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vrai. Voilà, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il faut appeler. Il faut appeler, il faut faire du'a, il faut lever vos mains, il faut pleurer. Il faut faire l'adab de du'a. Demandez à Allah Azbar, c'est nos attributs. Subhanahu wa ta'ala, qu'il guide vos parents et qu'il les préserve et qu'il les fasse entrer le Jannah. Donc, on a dit quoi? Les parents, attention. Et comme j'ai dit, l'uquq al-walidin, hein, c'est quoi? Parmi le kaba'ir. Sallallahu alayhi tawfiq wa sadat. Pourquoi on a parlé de ça? Parce qu'on a dit quoi? Que c'était une des explications par rapport que la servante engendre sa maîtresse. Maintenant, le sens de sa parole. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان أن الفقراء الذين يرعون الغنم ولا يجدون ما يكتسبون به تتغير أحوالهم وينتقلون إلى سكن المدن ويتطاولون فيها بالبنيان وهاتان العلامتان قد وقعتا. Dixième point tiré de ça, le sens de sa parole est que tu vois les va-nu-pieds, les nus, les miséreux, les bergers se concurrencer dans la construction des bâtisses de plus en plus hautes. C'est-à-dire que la situation des pauvres qui gardent le bétail et ne trouvent même pas de quoi s'habiller va changer et qu'ils vont aller vivre dans les villes et concurrencer dans la construction de bâtisses de plus en plus élevées. Ces deux signes, chérie, il a dit quoi, sont d'ores et déjà arrivés. Sa parole, onzième point. قالوا ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله رسول أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم معنى ملي زمانا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن السائل بأنه جبريل عقب انطلاقه وجاء أنه أخبر عمر بعد ثلاث ولا تنافي بين ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الحاضرين ولم يكن عمر رضي الله عنه معهم بل يكون انصرف من المجلس واتفق له أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فأخبره. Onzième point. Sa parole, il partit puis je restais là un long moment. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Omar, sais-tu qui est celui qui questionnait? Je répondis, Allah et son messager sont plus savants. Il dit, c'était Jibril, venu vous apprendre votre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa après qu'il Jibril soit parti ses compagnons que c'était Jibril. Il a aussi été rapporté qu'il en informa Omar 3 jours après. Il n'y a aucune contradiction en cela, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa ceux qui étaient présents, alors qu'Omar ne l'était pas, car il avait quitté l'assise. Il rencontra le prophète sallallahu alayhi wa sallam 3 jours plus tard qu'il en informa. Donc il n'y a pas de contradiction dans les riwayat, dans les différentes versions. Maintenant, les enseignements du hadith, c'est des points très courts qui résument tout en fait. Il y en a 12, très très courts. Et avec ça, on a fini le dars de hadith Jibril, inshallah. Mais ma yustafad min al-hadith, ana as-sa'il kama yas'alu lit-ta'allum faqad yas'alu lit-ta'lim. فيسأل من عنده علم بشيء من أجل أن يسمع الحاضرون الجواب. Premier point, celui qui interroge peut le faire pour apprendre, mais également pour enseigner. Il demande donc à la personne qui a de la science afin que l'assistance entende sa réponse. Deuxième point, أن الملائكة تتحول عن خلقتها وتأتي بأشكال الأداميين وليس في هذا دليل على جواز التمثيل الذي اشتهر في هذا الزمان فإنه نوع من الكذب وما حصل لجبريل فهو بإذن الله وقدرته. Les anges transforment leur apparence et apparaissent sous l'apparence d'êtres humains. Il n'y a pas en cela une preuve sur la permissibilité de faire de la représentation théâtrale. C'est qui dit ça? Cher Mohsen Abbad, hafidahullah ta'ala. Et pas un chir autoproclamé qui a maximum la trentaine et qui s'autoproclame imam en France. Hein? Pas parce que quelqu'un il porte un beau chimar, ça y est, khlas, c'est fini, il a un beau, hein, un beau chimar blanc, il monte sur une barre, ça y est, khlas. Non, attention les frères. Les anges transforment leur apparence et apparaissent sous l'apparence d'être humain. Il n'y a pas en cela une preuve sur la permissibilité de faire de la représentation théâtrale qui s'est répandue nos jours. Car c'est un genre de mensonge. Et c'est ce qui est arrivé à Jibril est arrivé par la puissance et la permission d'Allah. Troisième point. Bayan adab al-muta'allim 'inda al-mu'allim. La mise en évidence des bienséances que celui qui apprend doit observer avec son enseignant. Vous avez vu l'assise de Jibril, hein, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas que toi assis tu sois hein, étendu avec tes pieds devant de, hein, celui qui t'enseigne, etc. Ça c'est contraire au adab. La mise en évidence des bienséances que celui qui apprend doit observer avec son enseignant. 4. Annahu 'inda al-ijtima' al-islam wal-iman yufassiru al-islam bil-umur adh-dhahira wal-iman bil-umur al-batina. Quatrième point, lorsque le terme islam et le terme iman sont regroupés, l'islam est expliqué par les choses apparentes et l'iman par les choses intérieures. Cinquième point. Al-bad'u bil-aham fal-aham. Lianhu budi'a bil-shahadatayn fi tafsir al-islam wa budi'a bil-iman billahi fi tafsir al-iman. Le fait de commencer par ce qui est plus important, car on a débuté par les deux attestations dans l'explication de l'islam, et on a débuté par la croyance en Allah dans l'explication de l'iman. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce cours aujourd'hui ici, hein, et hier. Pourquoi ? Parce qu'on commence par ce qui est le plus important dans la da'wah. 6. Anna arkan l'islam khamsa. Wa anna usul iman sitta. Sixième point, les piliers de l'islam sont au nombre de 5, et les piliers de la foi sont au nombre de 6. Septième point. Anna l'iman bi usul الإيمان الستة من جملة الإيمان بالغيب. La foi en les six piliers de la foi fait partie de la foi en l'invisible. بيان التفاوت بين الإسلام والإيمان والإحسان. La mise en évidence de la différence entre l'islam, la foi et l'excellence. الإسلام والإيمان والإحسان. Neuvième. بيان علو درجة الإحسان. La mise en évidence du haut degré de l'excellence, l'إحسان. Dixième point. Anna ilm sa'a mimma sta'athara Allah bi'ilmih. La connaissance de l'heure fait partie des choses que seul Allah connaît. Onzième point, et avant-dernier. Bayanu shay'in min amarati sa'a. La mise en évidence de certains signes précurseurs de l'heure. Douzième et dernier point pour ce cours. Qawl al-mas'oul lima la ya'lam Allahu a'lam. Lorsque celui qui est cautionné ne sait pas, il se doit de dire « Allah est plus savant. Hmm? » Wa Allahu a'lam wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc on se voit après l'asr pour deux cours, inshallah. Donc reposez-vous bien, mangez bien. Hein? On aura peut-être un petit break de 10 minutes, un quart d'heure entre les deux, mais hein? On va essayer de... Hein? On est là pour tirer le maximum de bénéfices de ce week-end. Et peut-être que vous avez des choses à faire, etc. Mais je vois pas grand chose qui serait mieux que ça. Hein? D'accord? Donc, on essaie d'être ici, Inch'Allah, après l'Asr. Wa jazakumullahu khairan.